Chapitre 7. Paris. Je retrouvais assez facilement mon chemin jusqu'au pont. Mais une fois passé la Seine, il me fut impossible de reconnaître l'endroit où la gentille Babette m'avait fait tourner. Paris nocturne avait alors une réputation détestable que les gens de la province exagéraient à plaisir. Je ne fis aucune mauvaise rencontre, ni aucune bonne non plus, et je m'égarais si bien que je souhaitais tomber sur un voleur pour lui demander ma route. Au petit jour, mes jambes me rentraient dans le corps, et je pense bien que la fièvre m'avait repris, car j'essayais avec un entêtement enfantin de résoudre le problème posé par ma dernière aventure. Ce nom de ville Gousset me battait le tympan comme un son de cloche. Et ces gens me connaissaient. Mon nom avait été prononcé de l'autre côté des volets, j'en étais sûr. J'étais sûr aussi d'avoir oui déjà la voix de ce vide Gousset. Il me semblait à chaque instant que le nom de cet homme allait faire explosion sur mes lèvres. Mais plus je redoublais d'efforts pour deviner ou me souvenir, plus ma mémoire se brouillait. Les premiers éveillés que je rencontrais étaient des paysans venus pour la halle et qui me rirent au nez quand je leur demandais la rue Saint-Honoré, absolument comme mes saboutias de la forêt de Rennes. Les paysans sont les mêmes partout, excepté dans les livres où on les habille de sagesse, de bon sens et de vertu. Il faisait beau soleil quand j'arrivais à mon hôtellerie. Joson, qui était déjà levé, me regarda d'un œil sévère et ne me parla point. J'avoue que je n'éprouvais pas un très vif besoin de faire la causette. Je me jetai sur mon lit tout habillé et je m'endormis comme un plomb. Pendant que je dors, le lecteur me permettra-t-il de dire un tout petit mot sur ce beau Paris où nous allons vivre ensemble les dernières pages de ce récit ? C'était alors, par toute la France, une époque singulière. Mais Paris, surtout, avait une physionomie à part et qui tentera longtemps la plume des moralistes et des conteurs. Le règne finissait, le long règne de cet homme que la Dubarry appelait la France et dont elle disait « Je défie bien qu'on trouve un plus pauvre diable dans les 32 gouvernements ». Autrefois, il avait été, ce roi, surnommé le bien-aimé par l'enthousiasme des Parisiens. À présent, il faisait percer des routes dans la banlieue, n'osant plus traverser Paris. Lamentable vieillesse, il s'ennuyait. S'ennuyait quand on a tout un peuple malade à guérir. Et il disait, lui, le roi, « Après moi le déluge !» Il avait été beau, brave et bon. La paresse dont on l'accusait faisait sourire autrefois. La France, maintenant, se mourait de sa fainéantise, gouvernée successivement et fomentée par la timidité entêtée de Fleury, par l'égoïsme arrogant de Choiseul, pensionnaire de Marie-Thérèse, et par l'audace de cette prodigieuse sangsue, l'abbé Terray, que la rancune populaire avait surnommée « Vie de Gousset » par allusion au sobriquet d'un bandit à la mode. D'autres disent que c'était le bandit qui avait emprunté son surnom au ministre. Ne tranchons pas ce point d'histoire. Ils étaient trois hommes d'État maintenant, comme si un seul Choiseul n'eût point suffi à mener rondement l'agonie royale. Monsieur de Maupoux, le père de ce parlement dont Beaumarchais a illustré la justice, monsieur le duc d'Aiguillon, qu'on allait emprisonner comme escroc au moment où il escalada le ministère, la plus commode de toutes les cavernes pour un voleur, disait le Breton la chalotait. Monsieur d'Aiguillon, qui ne valait pas monsieur de Richelieu, son père, lequel ne valait rien. Monsieur d'Aiguillon, le vainqueur de Saint-Caste, qui s'était caché dans un grenier à blé pendant la bataille, et dont le roi lui-même disait, après monsieur le duc de Duras, « Il s'est couvert, non point de gloire, mais de farine. » Et enfin, celui que nous avons nommé déjà, Joseph-Marie Terray, financier consommé, mais qu'aucun sans vergogne, corrupteur, accapareur, la plus terrible machine à pressurer un peuple qui ait jamais fonctionné de mémoire de vampire. Il est peint tout entier par cette sauvage réponse qu'il fit à M. Guéton d'Oisy, commis de l'intendance de Saint-Onge. « Monsieur l'abbé, lui disait ce malheureux, réduit au désespoir par la retenue de moitié, J'ai 16 enfants. C'est trop. Faut-il donc les égorger ? Pas tous, répondit Thérèse. Gardez-en une paire. Notez qu'il avait de l'esprit comme un démon. Il disait à cette misérable ruine qui était le roi, « Sire, il m'appelle Vide Gousset. Où diable veulent-ils que je prenne l'argent si ce n'est dans les poches ?» On vit sous ce triumvirat la misère publique monter comme un flux et noyer des provinces entières. Paris souffrait, mais par place, dans des coins et dans les trous. Il y a toujours à Paris une population de surface qui jette ses gaietés comme un voile au-dessus des larmes publiques. Moi qui parle, je ne vis d'abord à Paris que des étincelles et je n'y entendis que des chansons. On agiotait, on jouait, on dansait. J'ai vu des sommes folles se gagner et se perdre sous les bosquets des guinguettes où se tenait la petite bourse des blés, au Porcheron ou à la Nouvelle-France. La plaisanterie du jour était celle-ci. « Dis-moi ton métier, brunette. »« J'affame. » Et c'était vrai. Iris spéculait sur les blés, comme Vénus jouait avec les cédules du Mississippi au bon temps de Monsieur le Régent. Une coquine à la mode serait morte de honte si on l'eût accusée de n'être point accapareuse. J'ai ouï dire que, tout contrôleur général qu'il était, Monsieur l'abbé Thérèse gagnait 1 million d'écus tous les ans à la halle au blé. Monsieur de Sartine racontait tout cela au roi avec les méfaits amoureux des gens de profession austère, les cabrioles des duchesses et les épopées des coupeurs de bourse. Il y avait 3 voleurs adorés que la chronique parisienne n'eût pas troqué contre un brelan de héros. C'était d'abord le fils du fameux Lamorlière, qu'on appelait le petit poulailler. C'était ensuite le petit Cartouche, dont monsieur le comte du Barry savait, dit-on, le vrai nom parfaitement. C'était enfin le capitaine Vide Gousset, homonyme du ministre des Finances, qui passait pour le plus beau garçon des 3 et le plus heureux auprès des dames. Le jour même où l'argent de poche de Madame du Barry fut porté de 30 000 livres par mois à 60 000 livres, le capitaine Vide Gousset avait détourné le carrosse menant le premier 12e à Lucienne, et la favorite ne trouva dans la cassette du ministère qu'un bouquet de violettes d'un sou. Paris en faillit mourir d'aise. Cela damait le pion au pickpocket de Londres qui avait commencé à se montrer aux fêtes du mariage de Madame la Dauphine. L'anglomanie était à son aurore. C'est la chose qui a le plus duré en France. Elle n'est pas morte à l'heure où j'écris et j'ai idée qu'elle vivra encore longtemps. On imite chez nous par haine ou, si mieux vous aimez, par jalousie. Les Anglais sont plus drôles. Ils ne veulent rien faire de ce que nous faisons. C'est de l'imitation au rebours. Les jardins anglais jetaient bas nos droites allées de grands chênes. Les jockeys détrônaient nos écuyers. Jean-Jacques Rousseau, avez-vous remarqué cela, est un Anglais de Genève. Il avait pris la belle nature et les peupliers aux Anglais. Et il les avait donnés à Marie-Antoinette, la princesse idolâtrée, si charmante et si heureuse, qui traduisait tout cela en fromagerie suisse et en course à ânes dans ses paysanneries de Trianon. J'ai dit « si heureuse ?» Pauvre chère belle reine. Et si vous saviez comme elle aimait Gluck, son maître de contrepoint, comme elle détestait Piccini, l'Italien qui chantait en pie bavarde, et quelle jolie mélodie originale tombait parfois de ses lèvres roses qui devait boire un si amer calice. Elle était, cette jeune princesse, qui préludait à son martyr par tant de joie, le trait le plus frappant de la physionomie parisienne. On voyait en elle la consolation de toutes les hontes, on l'espérait comme la revanche de tous les malheurs. Qu'ai-je à dire encore ? Parlerais-je des filles dont le fléau envahissant menaçait de supprimer les femmes ? Des fermiers gonflés ? Des impôts qui montaient comme la tour de Babel, des poètes. On allait jouer justement le barbier de Séville. Voltaire avait encore 6 ans à vivre. Je ne sais pas bien ce que ce grand homme a de commun avec la poésie. Quant à Beaumarchais, son esprit était fait de prose et de vitriol. Reprenons notre histoire. Je m'éveillais après 12 heures de bon sommeil et par famine. J'appelais Joson qui ne répondit pas. Mes cris amenèrent pourtant quelqu'un, et ce fut une belle grosse fille de Nanterre, à la mine joyeusement effrontée. C'était de là déjà que venaient les rosières. Elle s'appelait Fanchon. Elle me rit au nez du premier coup. J'aurais cherché 100 ans avant de trouver un meilleur caractère. « Savez-vous où est mon valet ? » demandai-je. « Ça, un valet ?» me répliqua-t-elle. « Il est à Rome ou bien à Pantin, quelque part. Il a pleuré toute la soirée pour avoir du cidre. Et comme je le regardais pour bien voir quelle bête c'était, il a voulu me battre, disant que je lui effarouchais sa vertu. Il ne sait que boire en hurlant des chansons à porter le diable en terre. Ah, vous avez une bonne chance qu'il vous a donné votre congé, celui-là. Comment ? Joson m'a quitté ? Il a bien recommandé qu'on vous dise qu'il ne veut plus servir un libertin qui couche dehors. Vous êtes un chevalier, à ce qu'il paraît. Quand vous aurez pris un bain ou deux ou trois, dites donc, vous serez propre. Je vous trouverai un valet, moi, pour faire vos affaires dans Paris. Et Joson n'a pas dit qu'il reviendrait me voir ? Mademoiselle Fanchon rit plus fort et m'apporta une mirette. « Rien que d'avoir un pareil rusto avec soi, » dit-elle, « on gagne sa crasse, monsieur le chevalier. Regardez-vous !» Le fait est que j'avais l'air d'un ramoneur. Toute la poussière de la route, depuis Mayenne jusqu'à Paris, était sur mes joues. Je fis monter un bain, d'abord, où je m'étrillais d'importance, puis un bon repas que je dévorais. Puis du papier, une plume et de l'encre. Mademoiselle Fanchon, qui remplaçait Joson fidèlement depuis mon réveil, ouvrit ma petite valise et jeta les diverses pièces de ma toilette sur mon lit avec des exclamations de pitié. « Je vais écrire, » lui dis-je. « Laissez-moi, ma fille. »« Écrivez tant que vous voudrez, » me répondit-elle. « Mais vous voilà blanc comme un chérubin. Si vous n'avez pas d'argent, fondez vos deux bidets. » « Je ne vous laisserai pas porter de pareilles guenilles. Écrivez, écrivez. Je vais vous amener Maître Patu. » C'était encore une amie que j'avais. Elle m'envoya une risette avant de claquer la porte.